Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi à 16h. Vous retrouvez le magazine consacré à l'université Campus Lille Info. Bonne écoute donc de cette édition, elle sera consacrée aux mathématiques et plus précisément aux écrits mathématiques de Michel Parot. Autour de cette table, eh bien, nous avons la chance d'avoir beaucoup de personnes. Nous avons, alors on va présenter dans un ordre tout à fait particulier, une étudiante de l'université, d'une des universités de Lille qui s'appelle Elsa. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Voilà, de quelle université es-tu ?
Je suis de Lille 3.
Lille 3.
Université d'humanité.
Voilà, et en l'occurrence, tout intéresse, dont les mathématiques.
Dont les mathématiques, évidemment.
Alors un autre passionné, alors là, encore peut-être plus passionné, mais encore plus spécialiste de mathématiques, il s'agit de Dominique Kazmierowski. Bonjour Dominique.
Bonjour René, bonjour à tous.
Donc qui est très connu à Radio Campus pour notamment son émission scientifique, mais qui est un grand mathématicien aussi, voilà, qui adore les mathématiques en tout cas. Je te vois souvent discuter de mathématiques avec tes collègues.
Absolument, merci. Oui, mais bon, grand, c'est un grand bien mot.
Bon, voilà. Tu es en tout cas un passionné et c'est à ce titre que je t'ai invité.
Merci.
Parce que on va parler de quelqu'un que tu as connu dans quelques instants avec justement un ancien président de l'université, de cette université, on va dire à l'époque de Lille 1, donc sciences et technologies, monsieur Pierre-Louis. Bonjour monsieur Pierre-Louis.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir.
C'est gentil, merci.
Alors aujourd'hui, on va dire c'est un moment à la fois émouvant et commémoratif, puisqu'un livre vient de sortir, un livre de mathématiques, ce n'est pas toujours évident, c'est
voilà.
Assez rare d'ailleurs
tout
les sorties
fait,
de ce type de livre. Donc ce livre est consacré à l'œuvre de Michel Parot, qui est donc un mathématicien, professeur de cette université, célèbre, et qui était aussi d'ailleurs, on en parlera, hein, doyen de l'université de sciences de Lille, et puis aussi de cette université de Lille 1 où il était président. Là, un livre vient de sortir, donc on va parler de cet ouvrage, écrit mathématique de Michel Parot, avec donc vous, monsieur Pierre-Louis.
Voilà, donc il s'agit d'un livre effectivement dont les textes ont été réunis par Robert Gergondet, qui est un mathématicien de Lille également. Le livre qui a été mis en chantier après le décès de Michel Parot, il y a une dizaine d'années, et donc qui vient de paraître. Alors ce livre est conçu de plusieurs parties. Une partie qui fait le point sur les recherches menées par Michel Parot sur les surfaces de Riemann en particulier, avec une thèse qu'il avait faite au CNRS à sa sortie de l'école normale supérieure. Et puis des colloques aussi qu'il a tenus à l'étranger à l'époque. Et puis une partie, alors que certains étudiants justement reconnaissent facilement, c'est toute la partie de cours qu'il a pu donner lui-même, tout d'abord à la Faculté des Sciences, place Philippe Lebon, puis ici sur le campus à Villeneuve-d'Ascq, sur la variable complexe, les fonctions holomorphes, méromorphes, etc. Des choses tout à fait intéressantes. C'est un texte c'est un cours qui avait été polycopié, je crois, à l'époque, mais jamais publié sous cette forme-là. Donc, qu'on va retrouver ici parfaitement diffusé et imprimé. Et puis une troisième partie qui, elle, est mise en postface, qui permet de retracer la carrière de Michel Parot depuis ses études à Paris, puisque son entrée à l'École normale supérieure, sa nomination à Toulouse d'abord, puis à Lille, où il est resté et où il a eu la carrière dont on parlera peut-être tout à l'heure.
J'espère bien. Alors, il faut savoir aussi que c'est un personnage au-delà du mathématicien. On en parlera également.
Voilà.
Et puis que là, vous préparez un événement très prochain.
Voilà. Donc, la sortie du livre va être l'occasion, effectivement, d'avoir une manifestation en l'honneur de Michel Parot, qui aura lieu le 20 juin ici à l'université, avec bien sûr une prise de parole de ceux qui l'ont connu et du président de l'université, bien entendu. Oui.
Alors,
donc le 20 à 17h.
À 17h, voilà. À l'espace culture.
À l'espace culture, voilà.
Très bien. Alors, c'est vrai que, on va dire, c'est une personne qui faisait autorité dans son domaine et qui a donc fait une thèse au départ sur les mathématiques, enfin, certains domaines.
C'est ça, oui. Donc, au départ, effectivement, à sa sortie de l'école de mathématiques, après l'agrégation, il est rentré au CNRS pour faire sa thèse. À l'époque, ça se passait un peu comme ça, quoi. Et effectivement, il a fait une thèse sur les surfaces de Riemann qui a eu un certain retentissement, plus à l'étranger ensuite qu'en France, parce que les spécialistes étaient peu nombreux en France, et je crois que le dernier n'était plus... avait disparu.
Alors je vais même le Japon, oui. S'intéresser à lui.
Voilà, le Japon, les gens d'Europe du Nord aussi, oui, tout à fait. Alors il y a effectivement quelques épisodes sur un professeur japonais qui avait appris le français pour pouvoir lire les épreuves de Michel Parent.
Alors là,
c'est vrai. Et donc il était lui aussi ce spécialiste de ces surfaces de Riemann. Et d'ailleurs, dans le livre, on trouve l'anecdote concernant le nom de Michel Parot qui a été donné à certaines de ces surfaces qui vérifient des conditions particulières. Quoi. Mmh. Alors, l'anecdote, c'est qu'il a découvert très tardivement le fait que son nom avait été donné. Voilà. Et un peu par hasard.
Voilà. Alors, autour de cette table, comme je vous l'ai dit, hein, nous avons donc Dominique Kasmianski qui a été un de ses étudiants.
Oui. Oui, absolument. Oui. Alors, modeste étudiant, parce que c'était à l'époque où la variable complexe était un des modules, comme on appelait ça à l'époque, de l'enseignement de licence. Alors, licence est actuellement l'équivalent de licence numéro 4, je crois, hein, c'est ça. Auparavant, on avait DOG, première, deuxième année, puis voilà. Licence, puis maîtrise, puis DEA, puis thèse. Et moi, j'avais suivi... le début de ma carrière, c'était plutôt à Valence, ancienne et entre autres, et ensuite je suis arrivé à partir de la licence ici à Lille, et donc j'ai eu la chance de suivre le cours de Michel Parot en variable complexe, justement.
Alors c'est l'occasion de rendre hommage à ton professeur aujourd'hui.
Ah, mais c'est vrai que parmi tous les... Enfin, je veux pas fâcher les autres, hein, que je connais par ailleurs aussi, il y avait Madame Gossmann-Schwarzbach, entre autres, qui était là, et puis également d'autres personnes, Yves Diers également, je pense que vous connaissez. Voilà. Et puis, pour ce qui est de Michel Parot, il y avait quand même quelque chose d'assez étonnant. Enfin, moi, j'en ai parlé tout juste à l'instant avant qu'on prenne l'antenne. C'était ce côté extrêmement au fait de tout ce qu'il racontait. C'est-à-dire que, peut-être contrairement, alors c'est là que je vais fâcher les autres enseignants, c'est que M. Parot faisait un petit peu vraiment je l'appelais toujours Michel Drucker. Il avait ses petites fiches. Et jamais il ne sortait un cahier ou bien un livre pour chercher une référence ou bien pour se rappeler d'un détail de démonstration. Il avait simplement sur ses petites fiches le plan de son cours, et puis le reste était coulé de source, en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'ai gardé de lui. Et je me souviens d'ailleurs, assez étonnamment, d'avoir réappris à écrire proprement. C'est-à-dire écrire nettement, d'ailleurs, presque en écriture cursive calligraphiée, de manière à ce que les notes que je prenais soient à la hauteur de ce qu'il racontait. Parce que bon, dans les premières années, en DOG, machin, même en prépa, j'écrivais comme un souillon, c'était absolument illisible. Et j'ai récemment ressorti ces cours de variables complexes que j'avais transmis à Monsieur Zhang, qui avait repris assez récemment d'ailleurs le cours de variables complexes. Et en relisant, simplement avant de donner à M. Zhang ses cahiers, je me dis, bon, j'espère que c'est à peu près lisible. Eh bien, effectivement, j'avais bien écrit, tout était propre. Alors, souligné, alors non pas en cours de route, hein, mais le plan était suffisamment clair et le discours était suffisamment limpide pour qu'en notant... Alors bien sûr, il fallait faire le travail de noter tout ce qu'il disait. Il fallait écrire assez rapidement. Mais néanmoins, en notant tout ce qu'il disait, on avait un développement d'une précision, d'une limpidité, d'une clarté qui était assez extraordinaire. Et il fallait bien entendu que la manière de prendre les notes en question soit à la hauteur du personnage, du phénomène M. Parot.
Alors, à t'entendre, on a l'impression que M. Parot avait intégré les mathématiques ou la mathématique, comme tu veux, et que donc il suffisait qu'il transmette un petit peu tout ce qui était en lui, qui constituait en fait quelque sorte son esprit.
Oui, Bien sûr, mais ce qu'on oublie, c'est de dire qu'il y a un travail derrière qui est absolument extraordinaire. Et bien entendu, cette clarté, cette apparente simplicité, demandée par ailleurs, parce qu'en fait, j'ai un peu suivi, bon, à ma modeste manière, sa voix, c'est-à-dire d'avoir fait de la recherche et fait de l'enseignement mathématique, ça demande énormément de travail. On se rend compte qu'il y avait un travail énorme derrière. Et je pense qu'effectivement, même c'est ces travaux. Alors, je viens d'apprendre justement, grâce à cette commémoration, si l'on peut dire, qu'il avait effectivement effectué des travaux de recherche extrêmement précis, extrêmement pointus. Et merci Robert, merci Monsieur Gergondet, donc d'avoir mis l'accent sur ce travail. Donc derrière cette apparente simplicité, effectivement, il y a un énorme travail. Et de toute façon, les mathématiques ne sont pas un métier facile.
Alors, à cette époque-là, dans une université, comment se faisait l'enseignement et notamment son rapport aux étudiants ?
Alors, le principe était quand même, malgré tout, du professeur, professeur en chair ou de chair, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est-à-dire qu'on avait les cours en amphi et puis M. Parot, on pouvait éventuellement le contacter à son bureau s'il le fallait vraiment. Mais en général, tout ce qui concernait l'attirail ou la technologie des mathématiques, c'était plutôt les enseignants de travaux dirigés qui se chargeaient de la question. Et à l'époque, on avait Madame Von Isgem, Jeannette, qui s'occupait de ces choses-là. Et par ailleurs, on avait beaucoup plus de rapports avec les enseignants de travaux dirigés, qu'on voyait un peu plus d'ailleurs, puisque c'était encore la grande époque des cours en amphithéâtre, avec en mathématiques une bonne centaine d'étudiants, hein, ce qui est quand même maintenant quantité un peu plus limitée. Et on avait donc vraiment le cours magistral au sens propre du terme. Je me souviens d'ailleurs que parfois, il arrivait qu'une partie soit de redoublants, soit de gens qui n'étaient pas forcément intéressés et qui foutaient le bordel, il faut le dire, ont amené même une fois M. Parot à quitter l'amphi à cause d'un brouhaha qu'il n'arrivait pas à faire cesser. Et bien, il a bien eu raison, parce que de toute façon, c'est pas à l'enseignant, au professeur d'amphithéâtre de faire la loi et de faire cesser la dissipation des étudiants.
Mm-hmm. Alors Elsa, toi qui es en licence 2, est-ce que tu as encore des grands professeurs comme ça devant 100, voire plus, étudiants dans de grands amphis à Lille 3 notamment ?
Alors, il faut savoir, oui, il y a des grands professeurs qui sont assez impressionnants parce que je pense qu'ils ont fait des bonnes études par derrière. Après, les amphis, maintenant, ils sont assez vides. Dès le début de l'année, surtout en licence 2, il y a plus de monde en licence 1, mais ça se vide au fur et à mesure de l'année. Mais c'est aussi des professeurs qu'on retrouve en TD. On a beaucoup de professeurs en amphi qu'on a aussi en TD. Donc je ne sais pas si c'était comme ça avant, ou les professeurs changeaient, n'étaient pas les mêmes en TD et en amphithéâtre. Mais nous, en tout cas, beaucoup de mes professeurs d'amphithéâtre étaient aussi mes professeurs de TD. En tout cas, en L1 à Lille 3.
Et la relation avec le professeur, justement, quand on est étudiant, comment on vit les choses ?
Je pense que par rapport au lycée, parce que j'étais au lycée juste avant, on est moins proche, on peut poser toutes les questions qu'on a envie, mais ils nous connaissent moins, mais c'est normal en même temps, il y a plus de monde à l'université, mais ils nous connaissent moins, donc on a une relation plus professionnelle, plus universitaire qu'au lycée, où en plus on est moins mature, donc ils font beaucoup plus de discipline qu'à l'université, on est censé être un peu plus intéressé par la question. Voilà.
Voilà, merci pour ton témoignage, Elsa. Donc, bonne continuation pour tes études, bien sûr.
Merci.
Alors, donc, on a parlé de cette thèse, on a parlé aussi des variables complexes. C'est un mot qui fait rêver, monsieur Louis. Des variables complexes.
Ah oui, oui, oui. Ah, mais c'est vrai que c'est un mot extrêmement intéressant. Moi, j'avoue que comme étudiant, quand j'ai commencé Place Philippe Lebon, avec Michel Parot en mathématiques 2, c'est vrai que c'est un mot qui ouvre un tas de perspectives et qui permet de faire des tas de calculs qu'on n'imaginait pas, quoi. Voilà. C'est assez étonnant, hein, toute la théorie des variables complexes, des fonctions holomorphes, etc., permet de calculer des intégrales. Bon. réel, mais en partant dans le domaine complexe. Alors, le domaine complexe, c'est le plan, quoi.
Voilà. Est-ce qu'on dit réel ? Parce que justement, dans la variable complexe, il y a les fameux nombres imaginaires.
Alors, ça m'a ébloui quand j'étais élève, ou voire étudiant même. Les nombres imaginaires, c'est ce qui m'a semblé plus magique et le plus incroyable. C'est-à-dire qu'à partir de nombres imaginaires, on arrive à démontrer des choses qui sont, j'allais dire, de l'ordre du normal et du logique. Voilà. Et donc, il faut passer par des choses qu'on invente pour redonner à une réalité une chance d'exister.
Je crois que c'est la magie des mathématiques, ça, franchement. Ouais. On invente un jour un nombre imaginaire pur, le i, là, dont le carré vaut moins 1.
Ouais.
Et à partir de là, on déroule un tas de calculs qui ont leur cohérence. Et qui permet de retrouver des résultats qu'on n'aurait pas trouvés sinon.
C'est un petit peu un catalyseur, on va dire.
C'est quand même extraordinaire. Hein,
comme un catalyseur, quelque chose de...
Alors, au plan philosophique, on pourrait se poser des questions, effectivement, sur la place des masses.
Et puis l'intelligence humaine, quand même, qui va au-delà de...
Sûrement.
Qu'est-ce qui a inventé le premier, les nombres imaginaires ?
Ah, j'avoue que je n'ignore, je ne sais pas si...
Si on demande à M. Gébard, il dira que ce sont les Arabes.
Ah bon, d'accord.
Ou même peut-être les Babyloniens.
D'accord. Né peut-être dans une des mille et une nuits.
Oui, même avant cela.
Voilà. Bon, voilà, soulignons donc l'apport arabe aux mathématiques. Hein. Bien sûr, chacun le connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de vous plonger dans pas mal de documents qui peuvent en témoigner. Alors, dernière partie donc de cette séquence, elle concerne aussi le personnage donc de Michel Parot, le personnage un peu... Enfin, quand je dis un peu, beaucoup politique, sinon politisé.
Oui, je crois que Michel Parot, évidemment, était à l'École normale supérieure pendant la guerre 39-45. Hein, et donc, il a été soumis à un certain nombre de contrats à l'extérieur, mais aussi de discussions en interne. Hein. Je crois qu'il a côtoyé beaucoup de savants dont on a parlé ensuite. Et donc, les échanges qui peuvent avoir lieu à l'École normale supérieure, évidemment, lui ont formé un certain nombre de philosophie de la vie. Et il a joué son propre rôle dans ce domaine-là. Et alors, effectivement, il a à l'époque milité au sein du Parti Socialiste. Et il était l'un des cadres des étudiants socialistes. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'à Lille, il y avait aussi après de la matière, il y avait un environnement propice.
Oui, tout à fait. Ah, mais c'est qu'ensuite, effectivement, il était nommé à Toulouse, mais il arrivait relativement vite à Lille. Et là, c'est vrai qu'il s'est intégré totalement au milieu lillois et il a été très actif à la fois à l'université, mais aussi dans toutes les réflexions sur l'avenir de l'université, sur ce qu'il fallait construire, comment il fallait organiser l'université, puisqu'on lui doit quand même probablement la naissance de l'université telle que nous, on l'a connue ensuite, quoi, avec les conseils élus. Bon.
Alors, Monsieur Père-Louis, à l'époque, comment se faisait la nomination d'un président d'université ? Vous avez connu ce processus ?
Ah, mais les présidents ont été nommés lorsque l'université a été fondée, donc après la loi Edgar Faure. Hein, et donc, avant, les doyens étaient élus par leurs collègues.
D'accord.
Père parmi les pères, comme on dit. Hein,
et cette élection, est-ce que le fait qu'on soit engagé politiquement peut jouer un rôle ?
Oh, oui, sans doute. Je pense que c'est pas forcément déterminant, mais je pense que ça donnait du personnage de Michel Parot une image à la fois de sérieux, de compétence, de capacité à discuter, qui était incontestable. Je crois que s'il a été nommé doyen de la faculté des sciences à l'époque, c'est parce que ses collègues l'avaient repéré comme étant quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose.
Voilà, donc une double autorité, mathématique d'un côté,
Il faut connaître, on en a parlé pour ses cours, mais c'était vrai de manière générale. Hein. Il avait une expression extrêmement claire, et donc dans ses discours, y compris non mathématiques, il arrivait à emporter l'adhésion parce qu'il avait cette clarté, cette façon d'exposer à la fois... avec une ligne de force, mais aussi une complexité. Donc qui emportait l'adhésion.
En fait, si j'ai bien compris, il amenait les personnes qui l'écoutaient à être dans un raisonnement, le sien, mais peut-être qu'il développe et qu'il amène aux autres et qu'il permet aux gens de s'enrichir.
Je pense que oui. Je pense que oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il a joué un très grand rôle ensuite, comme doyen, bien sûr, mais ensuite comme nouveau président de l'université et qu'il a pu avoir autour de lui une équipe qui a mis en place l'université telle qu'elle existe maintenant. Quoi.
Alors on peut dire aussi, soulignons, qu'il a été chargé, on va dire, de mission, pour résumer, de la mise en place de l'université du littoral.
Tout à fait. Alors c'est que quand la décision de créer l'université de l'Artois littoral a été prise, on a cherché bien sûr quelqu'un qui pouvait porter le projet sur le littoral. C'était pas forcément facile, le littoral. Il y avait quelques collèges universitaires, enfin, il y avait Calais, il y avait un certain nombre de... Mais il y avait aussi une dispersion des élus politiques, des rivalités de communes, donc ce n'était pas facile, quoi. Donc, il a fallu trouver quelqu'un qui serait capable de faire adhérer tout le monde, et voilà, c'est Michel Barrault qui a pris le relais.
Alors, pour résumer, j'ai connu cette période de création d'université, puisqu'au départ, il y avait l'université de Lille, .bar, et qu'après, il y a eu... on va dire des tentatives qui ont pour certaines abouti, notamment faire une université à Lens, qui a
Valenciennes avant. Avant, c'était Lens, même Valenciennes. Oui, avant Lens.
Oui. Non, on va dire l'université globalement sur Lens. Ouais. Et à partir de l'idée de Lens, puisque moi à l'époque j'étais dans les parents d'élèves qui avaient milité pour que cette université existe, et on avait fait un grand défilé dans la rue, vous voyez quand même.
Ah, d'accord.
Et que c'était pas du tout bien vu à Lille, d'ailleurs, à l'université de Lille, d'accord. Et à partir de là, l'idée dans les autres grandes villes du bassin minier notamment était chacune d'avoir son université là, à Arras, à Valence. Sienne et à Douai notamment, Béthune, etc. L'idée est née d'une université multipolaire et par la suite, dans le littoral, un peu le même schéma, on a retrouvé le même schéma.
Oui, tout à fait. Donc Michel Parrault a réussi à mettre ça en place. Alors bon, il commençait à avoir des problèmes de santé, donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a quand même été administrateur provisoire de l'université du littoral. Mais il a ensuite laissé la place à... je suis en train de chercher le nom de mon collègue Alain Dubrul.
Alain Dubrul,
que je connais bien. En
donc qui était aussi président ici, bien sûr.
Voilà, Alain Dubrul avait été président d'Île 1 et il est devenu administrateur du littoral, puis président du littoral.
Voilà, tout à fait. Voilà, on a fait un petit tour de la mémoire des universités de la région, carrément. Ouais. Et donc, on va revenir un peu à cet ouvrage. Donc, est-ce qu'on peut le trouver maintenant dans le commerce? Alors, je rappelle le titre, Écrits mathématiques de Michel Parrault. Voilà. Aux éditions Septentrion Presse Universitaire, dans la collection Histoire des Sciences.
Oui, on peut le trouver, il est dans le commerce, on peut le... c'est pas de difficulté.
Alors, et rappelons le travail de Robert Gergondet.
Absolument. Je crois que c'est un travail étonnant. Il a reconstitué la partie recherche, est admirable de ce point de vue. C'est vrai que...
Donc, pour les amateurs, le 23, c'est-à-dire un vendredi, vendredi 23, il y a le colloquium qui est consacré à Michel Parrault par Robert Gergondet. Donc, le titre, c'est un titre à la Robert, on va dire. Sur le travail purement mathématique, on va dire, on parlait tout à l'heure de surface de Riemann ouverte, donc c'est des choses assez compliquées qu'on pourrait même pas résumer, c'est pas possible. Mais n'empêche que si vraiment il y a des amateurs de mathématiques et des gens qui connaissent un peu le domaine, eh bien, vous êtes conviés à ce colloquium qui a lieu à l'université ici Lille-1, cité scientifique, je rappelle, et c'est bâtiment M2, et c'est dans la salle Gaumont, je ne sais pas comment on appelle ça, j'appelle ça toujours la salle Gaumont, la salle de conférence, la grande salle de conférence, premier étage.
Merci Gagnon. Alors juste un petit mot autour des mathématiques. Donc Pierre-Louis, je rappelle, président de cette université, il y a un petit moment, et qui s'intéresse beaucoup aussi à l'association, l'association des anciens, pour résumer. Est-ce que maintenant, vous considérez que les mathématiques sont encore florissantes, que tout se passe bien, que les étudiants qui y viennent sont fort intéressés et ont un avenir devant eux?
Ah, fichtre. Une question bien difficile. Oui, bien difficile. Ben, écoutez, je pense que l'avenir est toujours ouvert aux étudiants de mathématiques, ça me paraît clair. Maintenant, j'ai le sentiment, mais je n'y suis plus, alors évidemment, j'ai peut-être pas une vue très, très claire des choses, qu'il en manque un peu, quoi. Voilà, il en manque un peu. Le nombre d'étudiants a largement chuté. Tout à l'heure, on parlait de plus d'une centaine. C'est vrai qu'il y avait des amphis extraordinaires. Bon, c'est fini.
Alors, je vais demander donc à Dominique maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Parce que quand on t'entend, on entend bien quelqu'un de passionné, on est d'accord.
Oui, hein, absolument.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que les mathématiques... Alors, je ne vais pas dire que c'est sympa, mais c'est quand même quelque chose d'assez enthousiasmant.
Eh bien, alors, franchement, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas, il faudrait faire cravacher les gamins dès les premières classes, dès la sixième ou de je ne sais pas quoi. Hein. J'en sais rien, moi j'avais appris les mathématiques. On avait encore à l'époque les mathématiques modernes avec la théorie des ensembles en classe de sixième, donc les relations d'ordre d'équivalence, on connaît ça, ça en sixième. Et maintenant, quasiment en terminale, on ne sait même plus ce que c'est. Donc, mais le problème, c'est que les mathématiques, c'est un domaine extrêmement profond, extrêmement dense, extrêmement énorme. Si bien qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. C'est comme le violon, j'allais dire, c'est comme le piano. Il faut vraiment faire ses gammes très tôt avant d'y prendre beaucoup d'intérêt.
Voilà, alors pour les parents que ça peut intéresser, sachez que c'est une profession d'avenir pour éventuellement, hein, si ça intéresse. Et que les enfants, il faut quand même leur donner un appétit, hein, pas les blinder de formules, mais leur dire qu'il y a des choses passionnantes à découvrir dans les mathématiques.
Et alors juste un dernier petit mot. Malheureusement, les mathématiques sont tellement devenu une technique de sélection des gamins dans toutes les tranches d'âge que finalement ça en dégoûte les gens de faire vraiment des mathématiques. Et je pense que le vrai problème, il est là.
Bon. On va conclure peut-être avec monsieur Pierre-Louis, si vous voulez bien.
Oui, bah écoutez, je crois que d'abord je suis content effectivement qu'on ait pu mettre en place cette émission puis, qui est une manifestation en l'honneur de Michel Parot. Je crois qu'il il a joué vraiment un rôle très important pour l'université. Je crois que on peut le lire dans le livre. Il a été présent depuis son arrivée à Lille jusqu'à son départ sur des tas d'endroits différents. Hein. On a parlé de l'Université littorale, bien sûr. C'est vrai qu'on aurait pu parler de la naissance de Calais, des collèges universitaires, mais aussi la naissance de l'Alias.
Ah oui,
puisque
donc,
c'est lui qui est à l'origine.
Qui est maintenant le Forum des sciences.
Ah oui, je pense que si ça existe, c'est grâce à lui. Hein, voilà. Il a tenu bon pendant plus de 10-15 ans, je crois, à partir du premier projet, pour finir par obtenir la reconnaissance à la fois du ministère au départ, qui ne voulait pas en parler, des élus locaux. C'est assez étonnant. Quoi.
Voilà. Page d'histoire, donc aujourd'hui, sur Radio Campus, dans le cadre de cette émission Campus Lille Info, que vous retrouvez tous les mercredis entre 16h et 16h30. Merci à tous.